Bonsoir, il est 18h37 et je vous invite à suivre tout de suite le journal, ceci jusqu'à 19h30 en compagnie de Sylvia Mona et Patricia Lafitte, à la technique bien sûr aujourd'hui, Jackie. Aujourd'hui, Max, de l'Association de défense des prisonniers de Suisse, pour une rubrique traditionnelle, mais pas dans tous les sens du terme cependant. Philippe Jacot, producteur d'émissions éducatives de radio et de télévision à la SSR. Et enfin, Edmond Kayser, qui, une nouvelle fois, lance un appel. Max, bonsoir. Des nouvelles ce soir, des nouvelles sur la drogue, tout d'abord.
Oui, il y aura quelque chose à ce sujet. Salut aux détenus et aux non-détenus, mais tout de même détenus quelque part, puisqu'on lit sur de grands panneaux « Économiser pour l'évasion ». Alors de quoi s'évade-t-on, hein? Vous aurez trouvé. Notre ami genevois, invité d'aujourd'hui, a dû remettre à la semaine prochaine sa venue. Passons donc à quelques remarques concernant les prises de stupéfiants par la police et autres drogues assimilées par la police. Mercredi passé, on pouvait lire qu'à l'aéroport de Zurich, la police avait saisi 5,75 kilos de drogue illégale, héroïne et cocaïne. On peut se poser la question suivante, et vous voulez poser, amis auditeurs. Comment se fait-il que, tout à coup, on aperçoive, lors d'un contrôle douanier, une alignée de fonctionnaires, l'eau à la bouche, sûrs de leur prise? C'est évidemment dû à une dénonciation, car effectivement, ils découvrent la marchandise. Bien entendu, à la presse complaisante et acritique, ils racontent que le flair et l'habitude accroissent la part de chance qui préside aux prises de butin. Mais pourquoi alors ces dénonciations? Tout simplement pour faire remonter les prix de la drogue. Mais oui, un coup de téléphone d'un grand caïd à la police et celle-ci se fait un plaisir de marcher dans la combine, se rendant directement complice de la cherté des produits prohibés et partant de la criminalité. Le maintien de la prohibition sur ces denrées, dont les conséquences de l'absorption sont âprement critiquées, est une position soutenue avec fermeté par les autorités répressives sous le prétexte qu'elle est indispensable pour préserver la santé de la population. En réalité, la prohibition n'est maintenue que pour, d'abord, créer un marché éminemment lucratif où les autorités de répression y trouvent leur compte. Nous allons bientôt faire éclater notre content de vérité, preuves et noms à l'appui. Deuxièmement, pour maintenir un état d'insécurité parmi les trafiquants et les consommateurs, cédant ici, avec une indulgence sournoise, intervenant brutalement ailleurs, ce qui parachève d'assurer un prix de vente substantiel. Troisièmement, pour faire croire à la population ignorante qu'il y a de méchants trafiquants et consommateurs et de gentils buveurs de lait et de jus d'orange. Autrement dit, en criminalisant une partie de la population, sanctionnant la sempiternelle dualité du bien et du mal. J'interviens donc sévèrement pour vous dire, amis auditeurs, ne donnez pas la tête baissée dans la propagande policière qui prétend protéger la jeunesse en grattant votre corde sensible. La police et le système judiciaire n'ont aucun égard pour cette partie de la jeunesse qui souffre d'abus de consommation de produits illégaux. Au contraire, en emprisonnant ceux qui vivent un drame, ils achèvent de les détruire en les amenant souvent au suicide. Parents, ne croyez jamais un policier quand il dit qu'il agit pour le bien de votre enfant, car il s'en moque. En réalité, il méprise et le malheureux interpellé et ses parents. Parents, ne croyez pas à la propagande policière qui prétend qu'on attend les enfants à la sortie de l'école pour les inciter à consommer des poudres démoniaques. C'est une légende autrefois cultivée par des auteurs de romans noirs à la recherche de sensationnels. Enfin, quand on aime ses enfants, quand on parle avec eux, clairement, franchement, sans dramatiser, sans user de rengaines moralisatrices, eh bien l'abus mortel n'existe pas. Car l'abus mortel, souvent choisi, résulte d'un renoncement à une vie dépourvue d'amitié, de compréhension, de convivialité, bref, en un terme simple, d'amour. Il est évident que l'accident, comme son nom l'indique, fait partie de la vie et de notre qualité de mortel. La presse a une grande part de responsabilité en alertant indûment la population. La mise en évidence d'un cas mortel dû à l'abus de drogue impressionne le citoyen ignorant les manipulations qu'exerce l'ensemble des appareils répressifs et médiatiques à ses dépens. Jugez-en. Une centaine de cas mortels en Suisse par an. Mais 700 morts résultant d'instruments de bricolage pendant les fins de semaine. Interdit-on de bricoler pour autant ? 800 morts suite aux accidents de la route. Interdit-on les voitures ? Et les ravages dus à l'abus d'alcool. Interdit-on l'alcool? Voyez le conseiller d'État Junot, souvent à mi-vin, il n'est pas le seul. Il se réjouit que les excédents de vin aient été absorbés et que la future vendange soit prometteuse. N'est-ce pas là une incitation à la consommation d'alcool? Voyez-vous, chers auditeurs, je suis un grand libéral, pour autant que ce mot signifie « amoureux de la liberté ». Donc rien à voir avec le parti répressif, pseudo-élitaire et petit bourgeois qui usurpe ce nom. Donc j'aime le vin en ce qu'il est un don de la nature, donc un don de Dieu, où l'homme prend sa part. J'aime à croire qu'il réjouisse son cœur. Or, convenons, chers amis, que le vin, plus généralement l'alcool, n'est pas le seul dispensateur de douces torpeurs. Toute drogue est digne de considération. Son abus, c'est son mépris, mais elle n'est pas méprisable. Ce n'est donc pas la substance qu'il faut incriminer, mais la cause de son abus. Et c'est là que notre société commence à rougir de honte. N'oubliez donc pas, amis auditeurs, de voter pour ceux qui entendent légaliser le cannabis. Ce n'est qu'un début, le 17 et 18 octobre prochain. Et vous, surtout vous, amis prisonniers, demandez à pouvoir voter. Vous en avez le droit, vous qui subissez les conséquences de cette honteuse prohibition. Une grève de la faim a été entamée vendredi passé par 4 détenus objecteurs de conscience au pénitencier de Bellechasse. Bravo les copains, voilà qui s'appelle avoir du courage, du sens civique et de la noblesse. Les nobles de notre temps sont ceux qui s'opposent aux volontés de notre junte de paranoïaques à la tête du département militaire. Tenez par exemple le chef de l'état-major général Lutti. Dans son délire de persécution, il voit déjà les soviétiques déstabiliser la Suisse et perpétrer des actes de sabotage. Lignes électriques, centrales nucléaires, stocks d'essence et autres points stratégiques. Il va même jusqu'à voir un de ces diables rouges dans un chauffeur de camion immatriculé en Union soviétique. Comment qualifier autrement ces coxigrues, sinon de propagande fallacieuse alarmant la population? Non, colonel Lutti, pour faire tous ces feux d'artifice, on n'a pas besoin des soviétiques. Nous pouvons faire ça tout seuls. Mais enfin, Lutti, pourquoi simuler les massacres et les sabotages? Pourquoi susciter la violence? Si les soviétiques veulent nous priver de carburant, ils n'ont qu'à couper l'arrivée de gaz naturel, ne plus nous fournir en pétrole. Et pourtant, tous nos industriels et nos politiciens, qui sont aussi nos militaires, ont applaudi aux interdépendances énergétiques entre l'Occident et l'Union soviétique. Alors, de qui te moques-tu, Lutti? Et qui cherches-tu à convaincre? Et de quoi? Chers amis auditeurs, vous répondrez à ces questions avec clairvoyance, car vous n'êtes pas tombé sur la tête. Alors, prisonniers, continuez d'éduquer vos répresseurs, subvertissez, remuez, anoblissez.
Max, je reviendrai juste sur le problème de la drogue, puisque c'est un sujet d'actualité, pas seulement en Suisse, mais aussi en Malaisie. J'y ai lu dans les journaux qu'on condamnait à mort là-bas, et on a condamné à mort encore la semaine dernière.
Oui, oui. Plus il y a de répression, plus on peut avoir la certitude que les gens qui condamnent sont impliqués dans le trafic de drogue. Et en Malaisie, ce sont les autorités incorporées qui sont impliquées dans le trafic de drogue. Mais pour éviter que cela ne se sache, il faut faire accroire à la population que ces autorités sévissent sévèrement contre les trafiquants de drogue qui sont en réalité de petits trafiquants, des mules ou peu importe, des gens en réalité de peu d'importance. Donc, la totalité des autorités malaises sont impliquées elles-mêmes dans le trafic de drogue. Elles se protègent en réprimant les petits trafiquants.
Max, on te retrouve la semaine prochaine dans le journal de vendredi avec Marc Boss.
Oui.
Bonsoir.
Au revoir.
Philippe Jacquot, vous êtes l'un des deux producteurs des émissions de télévision éducative, qui s'appelle plus comme ça, mais on en reparlera plus tard. Les programmes réguliers ont recommencé après la pause de l'été, et vos émissions aussi cette semaine. Mais c'est surtout lundi, mardi et samedi prochain qu'il y aura une émission et qui a pour sujet les radios locales, pardon, en général, à partir de deux radios, RTN et Radio Acidule. Alors bien sûr, c'est l'occasion aujourd'hui pour nous invitons d'informer les auditeurs d'Acidule qu'ils peuvent en savoir plus sur leur radio en regardant cette émission, mais c'est aussi l'occasion pour eux d'en savoir plus sur la manière dont vos émissions sont concoctées. Pour juste évoquer l'émission de la semaine prochaine, pourquoi parler aux jeunes, car c'est à eux que je crois qu'on s'adresse, mais on le verra plus tard aussi, les radios locales, du sujet des radios locales.
Bon, en fait, ça correspond au mandat que la télévision éducative, qui s'appelle Immédiat, on va le dire tout de suite, hein, petit coup de pub quand même, le nouveau nom de la télévision éducative, c'est donc Immédiat, I pour information et Média pour les médias, et c'est un des mandats de ce programme-là, c'est d'indiquer aux jeunes, d'apprendre aux jeunes à regarder la télévision ou à mieux comprendre les médias, que ça soit la télévision, la radio, la presse écrite, voire même des choses qui sont un peu en rapport avec les médias sans l'être directement, comme le spectacle ou la publicité.
Ou le cinéma aussi. J'ai vu qu'il y aurait des sujets sur le cinéma.
Exactement, oui. Alors, une émission sur les radios locales s'inscrivait parfaitement dans ce contexte-là. Et pourquoi les radios locales ? Eh bien, premièrement, parce qu'on en parle beaucoup. Et puis, lorsqu'on a commencé à faire notre petite enquête sur les radios locales, on s'est rendu compte auprès des jeunes qu'il y avait une certaine confusion entre radios locales et les radios libres. Et que si, en Suisse, depuis à peu près 3 ans, les radios locales émettent, en fait, la plupart des jeunes écoutent des radios qui sont françaises, de long, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'informations et on a décidé de creuser un peu le dossier. Et en creusant le dossier, on a remarqué qu'il y avait un paradoxe. C'est que d'une part, les jeunes écoutaient plus facilement les radios françaises, mais d'un autre côté, qu'il y avait énormément de jeunes qui participaient à l'élaboration des programmes des radios locales en Suisse.
Alors, est-ce que les gens qui ont réalisé cette émission ont eux-mêmes changé d'optique, puisque c'est des gens qui travaillent à la SSR en général, donc qu'il y avait peut-être certains préjugés ou certaines façons de penser par rapport aux radios locales. Est-ce que ces gens ont changé d'optique par rapport aux radios locales ?
Je ne sais pas si les gens qui ont réalisé l'émission, c'est-à-dire que la réalisatrice s'appelle Catherine Borel, le journaliste est Jean-Pierre Pastori, donc qui est un journaliste de presse écrite, de radio et de télévision. Je ne sais pas s'ils ont changé d'opinion. Je crois qu'ils ont peut-être découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas vraiment, parce que c'est vrai que lorsqu'on est pris dans le monde de la télévision et du journalisme, on n'a pas forcément le temps de s'occuper d'un phénomène qui, pour quelqu'un qui n'est pas complètement branché là-dessus, reste quand même un épiphénomène par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et comme maintenant, on approche de certaines échéances sur le plan fédéral des concessions qui ont été remises aux différentes radios locales, c'était un bon moyen de se renseigner. Je ne sais pas s'ils ont changé d'opinion, je ne crois pas qu'ils avaient d'a priori. Il y avait peut-être une...
Est-ce que la SSR ne se sent pas parfois, malgré tout, menacée un petit peu par les radios locales ? Alors, au lieu d'y voir une complémentarité ou une
C'est ce qui va apparaître dans le reportage que nous avons réalisé, c'est qu'il y a deux attitudes différentes et il y a deux sortes de radios locales sur le plan suisse. Hein, on va laisser complètement de côté les radios françaises et périphériques. C'est qu'il y a des radios dites complémentaires, Acidule en est une, et il y a les radios locales dites régionales à but publicitaire qui, elles, jouent un rôle différent. Et effectivement, l'attitude de la SSR est différente selon l'une ou l'autre de ces options de radio locale.
Vous avez parlé de jeunes qui participent à des radios. Alors, est-ce qu'à votre sens, ces radios qui sont peut-être moins commerciales, mais qui font travailler des jeunes, sont plus des centres de loisirs que des radios ?
Il y a un aspect centre de loisirs quand même. Ce qui nous est, objectivement, en sortant comme ça et en regardant un petit peu ce qui se passe, il y a un aspect, peut-être pas centre de loisirs, c'est pas péjoratif, hein, le mot centre de loisirs, je ne sais pas comment vous l'interprétez vous-même.
Mal, je crois qu'ici on n'est pas très d'accord avec
Il y a un aspect réunion, effectivement, et création de quelque chose entre amis. Il y a plus que le fait de faire un travail, de créer quelque chose au sein d'un média électronique comme la radio, mais il y a un aspect de rencontrer des gens et de faire quelque chose qui nous plaît dans un milieu plaisant. Et ça, c'est ce qui nous a étonné, c'est que quand on est venu visiter Acidule, par exemple, on a pris deux exemples. On a pris Radio Acidule à Lausanne et RTN 2001 à Neuchâtel. Et on s'est rendu compte que dans les deux endroits, il y avait une espèce de camaraderie qui peut paraître un peu surprenante, parce que les gens font ça peut-être, certains font ça peut-être plus avec leur trip qu'autre chose.
De manière plus générale, alors à qui s'adressent vos émissions ?
Alors, nos émissions s'adressent aux adolescents, aux enfants et aux adolescents en âge de scolarité, et s'adressent à ces enfants-là par le biais direct de la retransmission à l'antenne et par le biais indirect des enseignants.
Les enseignants utilisent les émissions que vous produisez dans les classes ?
Oui.
Et on parle dans leur classe. Et vous avez des contacts avec les enseignants pour le programme des émissions ?
Alors, nous avons des contacts. La radio-télévision éducative, parce qu'il y a des programmes sur Espace 2 aussi, produit un certain nombre d'émissions qui sont réalisées en collaboration avec les différents départements de l'instruction publique des différents cantons de Suisse romande.
Voilà. Et quels sont les sujets alors qui sont choisis ? Ils sont choisis, bien entendu, en fonction de la cible qui est les adolescents et les petits, et quels sont ces sujets ?
Alors, il y a trois objectifs distincts dans Immédiat. Je parlerai que de la télévision, mm-hmm. Si ça ne vous dérange pas.
Comme ça, on ne fait pas de concurrence à CDU, qui n'a pas d'émission pour les petits pour l'instant.
Et il y a trois objectifs différents. Le premier des objectifs, c'est justement l'éducation ou l'initiation critique aux médias, dont j'ai parlé. L'émission sur les radios locales rentre exactement dans ce cadre-là.
Oui, on pourrait peut-être donner un autre exemple.
Il y a eu des émissions, ce qui va sortir dans la grille d'automne, il y aura une émission sur le cinéma et la télévision, qui s'intitulera « Cinéma quand la télévision fait écran », c'est-à-dire à savoir que la télévision bouffe le cinéma et que le cinéma est en train peut-être de mourir de la télévision. Il y aura une émission sur la rumeur et l'événement, qui s'intitulera « L'événement-ment ». Et qui aura pour but d'observer un petit peu comment une rumeur se développe dans un endroit donné. J'en dis pas plus parce que c'est encore un grand secret et le tournage aura lieu la semaine prochaine.
Il y a aussi des émissions qui ont pour but de faire comprendre ce que c'est que l'actualité.
Exactement. Alors on s'est rendu compte aussi que l'actualité était un domaine qui était très complexe pour des enfants ou des adolescents, parce que quand on regarde un téléjournal ou qu'on lit un journal une fois de temps en temps, c'est un petit peu comme un feuilleton où on aurait raté tous les épisodes précédents. Alors ce que l'on fait nous, c'est d'essayer de reprendre une nouvelle
et de la développer
et de l'expliquer aux enfants en expliquant, en leur disant, voilà, alors on vous a donné ça à la télévision, ça s'adressait à des adultes qui ont suivi. Maintenant, pour bien comprendre le phénomène qu'on vous présente, il faudrait connaître un certain nombre d'autres facteurs qu'on essaye de mettre en scène.
Il y a des émissions aussi, des types d'émissions qui ressemblent plus à des documentaires et qui pourraient paraître comme ça, avoir un côté un peu ennuyeux, c'est des émissions scientifiques.
Vous avez...
Qui touche les domaines scientifiques, mais c'est peut-être très subjectif, ce que je dis.
Peut-être, oui. Effectivement, le reste de la programmation, donc il y a une émission hebdomadaire, il y en a une sur les médias, une sur l'actualité, et deux qui sont des documentaires. Alors ces documentaires, ça dépend de la saison et du choix que l'on fait. En l'occurrence, jusqu'à Noël, il y aura des émissions scientifiques, effectivement, qui, pour les gens qui ne sont pas intéressés à la science, peuvent paraître un peu rébarbatives. Mais il y a eu d'autres documentaires qui ont été repris, par exemple, sur la préhistoire du cinéma, qui était une série qui était très bien faite avec des comédiens aussi, où on essaye de faire un choix de documentaires qui ne soit pas lassant.
Mais comment rendre attractif alors ces sujets qui sont quand même plus qu'éducatifs? Ça veut dire qu'on doit informer, on doit faire passer des choses quand même,
oui.
qui à l'état brut peuvent ne pas être très attrayantes. Alors comment rendre cela attractif et le faire apprécier à des jeunes?
En fait, c'est tout le problème de l'école que vous posez là.
Mais l'école ne se donne pas trop de mal dans ce sens-là, je crois.
C'est vous qui le dites, j'entends. ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver un angle d'attaque intéressant et surtout un rythme important. Et la difficulté vient du fait qu'il est très très difficile, c'est juste, de produire des émissions à but éducatif qui est de la pêche, parce que ça coûte très cher, ça coûte très très cher. Et le problème est le suivant, c'est-à-dire que quand un producteur d'une chaîne de télévision privée, par exemple, décide de faire une émission, ce qu'il regarde, c'est le rapport qualité-prix. Et qu'en en fin de compte, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui va regarder une émission Et puis, dans le fond, il faut que cette émission soit vue par le plus de monde possible et qu'elle coûte le moins cher possible. Et si on se rend compte que ce type d'émission amène beaucoup d'auditeurs, alors à ce moment-là, on développe les moyens. Et c'est clair que pour les émissions de type éducatif, que ça soit des émissions pour enfants ou pour adultes, il y a un problème un peu important. Parce que est-ce qu'on va donner l'effort, faire l'effort financier de faire une émission qui aura de toute façon un taux d'écoute moins important qu'une émission de variété?
Alors là, il y a une nouvelle formule, justement. Est-ce que ça va un peu dans ce sens-là?
Alors, ben oui, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'amener une formule qui soit... Bon, les objectifs sont préservés, parce qu'on pense qu'ils sont bons. Et on a décidé d'enrober un petit peu le bonbon, puisqu'on est acidule, et de mettre un peu plus de sucre autour de l'émission, c'est-à-dire qu'on a fait un effort de présentation, on a fait un effort sur le générique, on a fait un effort sur le décor, on a fait un effort sur tous les effets plateaux avec un comédien qui présentera les émissions et non plus un journaliste comme c'était le cas avant. Et on espère, par ces espèces de petits sketchs qui sont drôles avant et après les différentes rubriques que l'on présente dans notre émission, de retomber sur ses pattes d'une manière un peu rigolote.
Alors c'est tout ce que vous avez à dire sur cette nouvelle formule. J'avais l'impression que vous aviez beaucoup de choses à dire là-dessus par rapport à l'ancienne. Quels sont les objectifs alors qui sont conservés?
Les objectifs sont conservés. Justement, ce qui change, c'est la forme. On change la forme et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément de choses qui se faisaient. Et qui intéressait les jeunes, et notamment, comme on ne peut pas tout faire en télévision, et que c'est peut-être un des handicaps de la télévision par rapport à la radio, c'est que les moyens mis en œuvre pour faire la moindre petite chose sont tellement énormes qu'on est obligé de faire un choix au départ. Alors ce qu'on a décidé de faire, c'était de promotionner un certain nombre de festivals, ça c'est une nouveauté, de festivals de cinéma, qui mettent en concurrence des films qui sont créés, des films de fiction ou de reportage, qui sont créés par des adolescents en âge de scolarité. Il y en a plusieurs, il y a notamment les Rencontres Écoles et Cinéma ici à Lausanne qui sont bien connues. Et ce que l'on va faire, c'est promotionner ces différents festivals pour peut-être susciter l'intérêt des adolescents d'y participer. On va leur donner des conseils techniques, parce que ça, on peut le faire, des conseils techniques sur la manière de manier une caméra, etc. Et ensuite, on va diffuser un certain nombre de films de fiction qui ont été réalisés par des enfants et qui nous paraissent amusants ou intéressants à un certain nombre d'égards. Et on va les diffuser à l'antenne.
Concrètement, est-ce que vous pourriez expliquer comment se confectionne une émission ?
Une émission de télévision ?
Une émission de télévision, non, pas en général, une émission de la télévision éducative. Il y a une équipe, je pense qu'il y a un grand nombre de personnes.
Il y a une équipe, oui. Il y a une équipe. Nous sommes deux producteurs à la télévision éducative à Genève. Je parlerai que du côté télévision parce que je voudrais pas oublier le côté département qui est important. Dans les départements de l'instruction publique, nous apportent un certain soutien, un feedback de la part des écoles et de la manière dont les émissions sont reçues dans les différents cantons. Mais on va parler uniquement de la conception de l'émission et de la construction de l'émission à partir du moment où le sujet a été décidé à la télévision. Alors bon, les producteurs se réunissent, on décide du sujet, de l'angle d'attaque du sujet. À partir de ce moment-là, arrive une équipe qui est formée d'un réalisateur et d'un journaliste auquel on propose le sujet. On leur dit voilà, on a pris tel et tel contact préalable, nous avons concocté un petit dossier qui reste à développer dans telle et telle direction. Ces gens-là travaillent à la préparation de l'émission pendant un certain nombre de jours, à peu près une semaine, un peu plus. Ensuite, il y a le tournage, 5 jours. Le montage, qui dure 8 à 10 jours. Puis ensuite, l'émission est mise en forme sur le plateau de télévision. Alors là, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui y participent parce qu'il y a des illustrateurs sonores, il y a les preneurs de son, il y a les caméramans plateau, enfin... En gros, je pense que 25 à 30 personnes travaillent peu ou prou pour une émission.
Et ça dure
une demi-heure.
Et le temps de travail consacré, ça fait un mois et demi.
Grosso modo, un mois. C'est-à-dire un mois à partir du moment où l'équipe est sur place. Et le travail préalable des producteurs peut durer des mois, en fait, c'est vrai.
Est-ce que le budget est le même pour chaque émission?
Non, le budget pour les émissions consacrées aux émissions consacrées aux émissions sur les médias, critiques aux médias, est plus important que le budget, et le temps de travail aussi est plus important que le budget consacré aux émissions d'actualité.
Ça coûte environ combien de faire une émission ?
C'est difficile à dire. Ça coûte. C'est difficile à dire parce que dans les budgets, il y a deux sortes d'argent. Il y a l'argent direct, c'est-à-dire l'argent qu'on dépense pour les déplacements, pour les droits de film, pour la pellicule, etc. Et que nous gérons directement. Et il y a tout le budget indirect qui est énorme, c'est l'utilisation des machines et du personnel de la télévision.
Est-ce que vous ferez une émission sur la confection d'une de vos émissions une
fois ? Il y en a eu plusieurs.
Il y en a eu déjà.
Il y en a eu plusieurs. Je vous conseille de regarder de temps en temps.
Oui, je n'ai plus l'âge, mais bon, on ne sait jamais. Il y a des choses que je n'ai pas apprises, ça c'est sûr. Et l'achat d'autres émissions, ça arrive que vous achetiez des choses toutes faites.
Ça arrive la moitié du temps.
Vous achetez à quoi et à qui ?
Alors, on achète à n'importe qui fait des émissions qui nous paraissent de bonne qualité sur le plan pédagogique. Souvent, et il faut le reconnaître, ce sont les Anglais, parce que aussi bien la BBC que les chaînes privées anglaises ont une tradition éducative dans les télévisions qui est historique, j'entends. Encore maintenant, c'est la référence dans le monde entier. La BBC est la chaîne qui fabrique le mieux les documentaires et les émissions dites sérieuses, et qui consacre le plus de temps et le plus d'argent. À part ça, je ne sais plus la deuxième question que vous m'avez posée.
Oui, c'était ça, je crois. Mais simplement, je voulais vous demander aussi si ces émissions étaient remises en forme sur votre plateau ou pas du tout. Elles passent telles quelles.
Si c'est des parties d'émissions. Non, alors on ne remonte pas une émission. On pourrait le faire, mais on ne le fait pas parce que d'habitude on estime que le produit qui nous est donné est suffisamment de bonne qualité. S'il ne l'est pas, on en choisit un autre parce qu'il y a un énorme marché qui existe sur le plan des émissions de télévision. Et ce que l'on fait, nous, c'est d'acheter un certain nombre de films, de se dire, bon, on va faire une programmation. C'est un peu la même chose avec une radio. Donc, vous avez des disques que vous recevez, vous dites, bon, alors on va placer un certain nombre de disques, et puis qu'est-ce qu'on va dire entre les disques ? Voilà. Alors, quand il s'agit d'avoir des documentaires qu'on achète à l'étranger, c'est ce qu'on fait. On achète un certain nombre de documentaires, on fait une programmation dans la case immédiate, et puis on fait les retours plateaux et les joints entre les différents documentaires.
Donc, j'imagine que vous avez vu beaucoup d'émissions éducatives d'autres pays. Est-ce que la Suisse, comment la Suisse se situe-t-elle par rapport à la fabrication de ces émissions ?
Alors, la Suisse a une position tout à fait. La Suisse remonte, hein, parce qu'il faut bien comprendre.
Ouais. Et puis par rapport à la Suisse allemande et au Tessin, d'ailleurs.
Oui. Alors,
une rubrique peuplée de personnages ce soir.
Oui.
Tout d'abord, un appel au nom, un salut.
Un grand salut. Saluons le retour de Boya, héros du Jura partiellement libéré. Je rends un hommage particulier à ce philosophe de l'action dont les conceptions politiques continueront à le séduire. Ce que j'aime, c'est sa déclaration à son arrivée à Genève. Si c'était à refaire, je recommencerais.
Tu es un homme de ces plats.
Ah oui, j'ai... Les mieux vaut imiter les bons exemples qu'en être jaloux.
Et c'est une idole pour toi ?
Pas une idole, c'est un homme. Simplement un homme, alors qu'il y a tant de sous-hommes. Maintenant, j'aimerais mettre un grand salut à l'objecteur de conscience Forestier, Jean-Daniel Forestier, que nous attendons dès que possible pour lui, ici à Radio Assidule, à notre émission Résistance en direct. J'espère qu'il est à l'écoute. Lui aussi doit avoir pris connaissance de l'incendie causé par les soudards de l'armée à Villeneuve mardi passé. Lui aussi doit penser qu'en matière de sabotage, de destruction de la nature, on ne peut égaler l'armée. Ainsi donc, en mal de combat, l'armée saccage les forêts. Souvenons-nous des 200 hectares ravagés par le feu au Liechtenstein fin 86. Et l'armée boucle le feu aux installations civiles. Et je passe sur tous les accidents de la circulation causés par les chauffeurs ivres de sommeil. Alors, réfractaires à l'armée, gloire à vous. L'armée tue, tuons-la. À propos de la taxe militaire, je propose que seuls ceux qui sont en faveur du maintien d'une armée la paient. C'est logique. Tu veux t'amuser avec des joujoux coûteux, tu passes à la caisse. Mais tu fous la paix à ceux qui n'en ont rien à branler. J'ai lu aujourd'hui que l'armée manque de professeurs. Heureusement, ça démontre que l'excès de conneries est tout de même dissuasif.
C'est un appel contre l'armée, là. C'est pas seulement un appel à ce que des objecteurs de conscience puissent ne pas faire de prison.
Non, en effet. En effet, parce qu'il y a l'objection de conscience et il y a cette nuance que font les fonctionnaires de la justice de l'armée eux-mêmes, c'est-à-dire ils estiment qu'il y a objecteurs et réfractaires. Alors les réfractaires sont tous ceux qui n'ont pas la religion à invoquer pour leur défense. Et, en revanche, je pense qu'aujourd'hui, l'armée s'est dépassée, c'est du reste un slogan que je ne suis pas le premier à émettre, et il faut trouver d'autres moyens de dissuader les belligérants de faire la guerre. Et l'armée continue de perpétuer chez le citoyen un instinct qui est destructeur et qui ne mène à rien.
Quels sont ces autres moyens ?
Ah, ces autres moyens, c'est la discussion, la recherche d'autres techniques de convivialité. Il y a... Bon, je ne voudrais pas m'étendre aujourd'hui sur la quantité de moyens qu'il y a, mais du reste, tous les moyens qui sont aujourd'hui à notre disposition ne sont pas exhaustifs. Il y a un institut qui est en train d'élaborer des méthodes qui permettraient de trouver d'autres arguments que la guerre pour régler des conflits. C'est l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm et de Genève.
Mais est-ce que cette non-violence à laquelle tu fais appel pour parler d'armée, elle implique chez toi un pacifisme qui déborde le cadre de l'armée, mais dans la vie de tous les jours, par rapport dans les relations que tu peux avoir avec les autres gens?
Oui, bien sûr. La violence, elle est partout. Hein. Elle est dans tout ce qui est représenté par le département de la répression, c'est-à-dire police, pouvoir judiciaire, prison et naturellement armée.
Mais ça, c'est des institutions étatiques, mais je parlais aussi de simplement des rapports qui peut y avoir entre les gens qui peuvent être plus ou moins violents.
Oui, bien sûr. Mais les conflits, il ne s'agit pas de masquer les conflits. Les conflits existent. L'affaire, c'est comment les résoudre. Et il y a des manières très élégantes de les résoudre sans avoir besoin d'en vouloir à la vie de l'autre. Donc, je pense... Il s'agit, le moment est venu de réfléchir, le moment est venu d'envisager toutes les autres formes de règlement des conflits.
Alors je crois que maintenant tu veux parler un petit peu de Franck Forêt et faire tout d'abord un rappel des faits.
Oui, Franck Forêt, je te salue ici. Tu es un actif propagandiste de la noble cause de la DPS. Tu es un homme courageux, nous le savons. Tu braves les menaces et le chantage de l'autorité pénitentiaire. Actuellement encore, incarcéré au Bois-Mermet, tu aurais déjà dû en sortir fin août. Et nous savons que tu as été jugé le 5 août passé. Cher Franck, tout notre respect, tu t'es vaillamment comporté face aux argousins du régime à Leuba. Je vois même dans une de tes récentes lettres que tu relèves que le juge d'instruction Antonen interdit au détenu yougoslave Alia Aïda de voir ses enfants. Merci de nous prévenir de ce viol des conventions humanitaires par ce juge d'instruction. Nous prévenons incessamment la Ligue suisse des droits de l'homme de ce comportement. Franck Forêt, c'est un jeune gars qui a décidé de se battre pour la DPS parce qu'il se rendait bien compte que plus on était passif en prison, plus on se faisait marcher sur les pieds. Évidemment, il faut avoir le courage de vaincre les premiers obstacles, c'est-à-dire que un chantage est exercé sur nous. Tu n'auras pas de congé, tu n'auras pas telle et telle occupation, tu ne recevras pas de visite, etc. Alors il faut savoir montrer qu'on triomphe de ces obstacles. Et lui en a triomphé et il y en a d'autres qui commencent à s'apercevoir que c'est ainsi qu'il faut lutter. Si Vous remarquez, dans la vie de tous les jours, il existe toujours un contre-pouvoir. C'est ce qu'on appelle la concurrence. Dans le commerce, il y a une concurrence. On n'aime pas les monopoles. Il y a encore certains monopoles d'État, mais en général, la concurrence est de rigueur. Mais la seule institution qui ne souffre pas la concurrence, c'est, soi-disant, la justice, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Mais, par extension, le pouvoir de la répression. Je répète, police, pouvoir judiciaire, exécution des peines, donc le pouvoir pénitentiaire, et l'armée. Or, nous estimons qu'il est intéressant, il est utile pour la liberté, pour la défense de la liberté de l'homme, d'émettre un contre-pouvoir à ces institutions. C'est-à-dire que la justice ne doit pas être un monopole, ne doit pas être un monolithe sans contrepoids. Et nous entendons, membres de la DPS, être ce contrepoids.
Alors, cette association, est-ce que c'est étendu un peu ? À part des gens comme Franck Forêt qui sont en prison et qui écrivent régulièrement et qui prennent part à...
Oui, alors
l'activité de la DPS.
Effectivement, nous avons maintenant de plus en plus de membres. Ce ne sont pas encore des membres entièrement actifs au sens où nous le souhaitons. Par exemple, des membres aussi actifs que Michel Rivoire ou Franck Forêt. Mais l'exemple fait école. Et je me réjouis de voir que la situation évolue très gentiment, mais très sûrement.
Mais vous n'êtes toujours pas considéré comme des interlocuteurs valables.
Pas encore. Mais la crainte des institutions est pour nous le signe d'un signe prémonitoire et un signe intéressant pour la suite, parce que nous savons que la crainte étant le commencement de la sagesse, les institutions doivent devenir plus sages. Et j'occupe beaucoup de cette association et du concours de plus en plus actif de ses membres.
On va passer, je crois, à un autre sujet encore, des nouvelles de tous les mouvements contre l'interdiction du cannabis.
Voilà, quelques nouvelles
qui fait toujours sourire notre technicien.
Ah ben, vive le cannabis, hein. Quelques nouvelles de la campagne d'information de notre mouvement Légalisons le cannabis. Tout d'abord, dites-vous bien que dès aujourd'hui, les prisonniers pour délit de chambre sont des prisonniers politiques. Notre cher ami détenu Jacques-Yves Muller, à la colonie des établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, qui est candidat député au Conseil national, ne reçoit pas son courrier en provenance de ses colistiers. C'est évidemment à la vengeance du charlot de service Clotty, caricature directoriale des EPO, qu'on doit ces obstructions systématiques du droit inaliénable de correspondance, en particulier quand il s'agit du droit d'exercer ses droits politiques. Pardon, ses droits civiques, c'est une chose. Ce directeur, expression même du fonctionnaire véreux, mais totalement paumé dans son rôle, jaloux, à la gueule de Pinot simple flic, poursuit avec l'opiniâtreté d'un taurillon d'arène sa quête du ridicule. Ainsi, il prouve, par sa mauvaise foi, que nous gagnons la partie. Même la presse officielle, pourtant si près du pouvoir, n'interdit pas à ses journalistes de sourire dans leurs interlignes. Vois-tu, Clotty, l'imbécilité est accable au point où l'on ne peut plus t'en vouloir. Quant au chef, son chef direct, M. Pedrazzini, il attend toujours que M. Jacques-Yves Muller lui demande d'examiner la situation. Alors, sagement, il n'entre pas en matière. Cette prudence vous fera venir vieux, M. Pedrazzini. Amis auditeurs, on peut déjà admirer les merveilleuses affiches de Légalisons le cannabis, qui meublent merveilleusement le paysage. C'est la partie centrale du tableau d'Eugène Delacroix, La liberté et la révolution. Avec quelques adjonctions, bien sûr, comme légalisons le cannabis, une feuille de cannabis, etc. Ouvrez les yeux alors et dites-vous qu'il s'agira de voter pour légalisons le cannabis les 17 et 18 octobre prochains, et que voter pour notre mouvement, c'est voter pour le train de la liberté. Alors remuez et n'ayez jamais, jamais peur.
Est-ce que tu peux rappeler les noms des candidats vaudois ?
Alors, les candidats vaudois, Numéro 1, M. Maurice Jacquard. Numéro 2, M. Jacques-Yves Muller. Et numéro 3, M. Christian ou Christophe Barhoffen.
En général, on donne les professions, en tout cas sur les listes officielles des candidatures. Et
alors,
les professions.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, Jacquard dit Avécha est comédien.
Ça permet de situer un peu les personnes.
Et notre candidat qui est actuellement détenu aux EPO, donc Jacques-Yves Muller, est artiste. Et le troisième est physiothérapeute. Donc M. Barhoffen est physiothérapeute.
Voilà, toutes les professions ne sont pas encore représentées. Je pense qu'il manque un peu de candidats pour qu'elles le soient toutes. Mais ça commence.
C'est vrai. Bien, je vous dirais que moi, je suis candidat dans le canton du Valais. Vous voyez qu'on se partage la tâche. Et si jamais vous voulez ma profession, eh bien, je suis philosophe. Il m'arrive d'être géologue.
Merci Max. Petite pause musicale et on retrouve Pierre Tillmans, président de la section lausannoise du Parti Socialiste.
Get out.